Bienvenue dans À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouin. Chaque semaine, vous trouverez ici toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Bonne écoute et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership.
La relation dont je veux parler ce matin est une connexion difficile à avoir. J'aimerais vous parler de ce type de connexion que représente Nathan. Nathan est quelqu'un qui te confronte. Nathan est quelqu'un qui met le doigt là où ça dérange. Et écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Tout le monde a besoin d'un Nathan. Amen. Tu n'es pas obligé de dire amen. Amen. Avant que les gens ne se ruent sur des conclusions charnelles, je veux dire ceci. Pour bien comprendre ce que représente Nathan dans ta vie, qui peut jouer le rôle de Nathan dans ta vie, je veux que vous sachiez que Nathan, le texte que j'ai lu, ce n'est pas la première fois qu'il parle à David. Je veux que vous compreniez que Nathan et David sont proches. Nathan est le prophète du roi. Nathan a été utilisé par Dieu pour dire à David les succès qu'il allait avoir, comment se comporter. Parfois, quand David consultait l'Éternel, il demandait à Nathan de demander à Dieu pour lui. Nathan et David sont proches. Donc, la première chose que je veux que vous compreniez, c'est que Nathan ne peut pas être un lointain. Je vais dire ça différemment. Nathan ne peut pas être quelqu'un qui est loin de toi. Oui, tu dois empêcher que des inconnus se lèvent et viennent pour commencer à te pointer du doigt en voulant remettre en cause comment tu vis ta vie. Oui, tu ne dois pas donner le droit à tout le monde de parler sur ta vie privée. Oui, il faut établir des barrières et des limites. Oui, je suis contre les gens qui, ne connaissant ni l'individu de près ou de loin, se permettent d'établir des jugements sur leur vie et leur façon de vivre. Je suis contre les gens qui n'ont été établis par personne, qui n'ont pas le droit légal de venir parler sur la vie de quelqu'un. J'entends deux Hébreux qui se battent. Celui qui botte l'autre, celui qui tape l'autre, voit Moïse intervenir. Moïse dit, mais les gars, arrêtez, pourquoi vous vous battez? Et puis le plus méchant, celui qui tapait l'autre, dit, mais oh, qui t'a établi juge sur nous? Et il y a des gens à qui on doit dire ça en face. Qui t'a donné le droit de juger autrui? Qui t'a établi juge sur une histoire que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève? Le problème qu'on a dans notre génération, c'est que beaucoup de gens vivent leur vie sur les réseaux sociaux et se croient tout permis parce qu'ils ont vu quelque chose sur un réseau social de pouvoir écrire. Je suis dérangé. Parfois même, j'ai envie de sortir de Facebook et d'Instagram parce que l'une des choses qui me fatigue, c'est que tout le monde a droit à la parole sur le réseau social. Ce que tout le monde peut dire, ce qu'il veut dire. Il n'a même pas d'abord réfléchi à la bonne formulation ou bien il n'a même pas la proximité nécessaire. Mais quelqu'un peut se lever et parce que tu as mis le jean que tu as mis sur ta photo, la personne peut venir commenter sur ta photo pour dire « Regarde comment tu es, bordel. » Ça me dérange. Il n'y a que moi qui suis dérangé, on dirait. Ça me dérange que quelqu'un soit capable de regarder à ton couple et de vouloir te dire comment vivre ton couple alors qu'il n'est même pas proche des réalités de ce que tu vis. Ça me dérange que quelqu'un soit capable de vouloir parler sur la vie de ton enfant que tu as gardé, que tu as éduqué et la personne ne sait pas ce par quoi tu es passé pour pouvoir emmener cet enfant là où il est. Ça me dérange de vivre dans une génération où tout le monde se croit capable de donner un jugement. Et le problème, c'est que c'est la jeunesse qui fait ça. Normalement, dans notre éducation, normalement, dans notre culture, le respect des aînés, le respect des anciens. Vous savez, je ne suis pas... je ne maîtrise pas totalement les faits qui sont racontés sur les gens dans les informations politiques ou pas, footballeur, artiste. Mais l'une des choses que je me retiens de faire, c'est de mettre ma bouche sur quelque chose où je sais très bien que je n'ai pas tous les éléments. Parce que, écoutez-moi bien, les gens mentent. Je vais pousser. Même les informations mentent. Et que parfois, ce que vous voyez sur le net, dans l'union ou sur les réseaux, c'est pas vrai. L'objectif, c'est simplement de faire le buzz. Et toi, tu vas mettre ta bouche sur une information qui n'est pas vérifiée. Parce que simplement... Regarde quelqu'un, dis-lui ça, ce n'est pas extraordinaire. Dis-lui ça, c'est ordinaire. Ça, c'est la base. Dans une génération où critiquer, où juger les gens est devenu ordinaire, quelqu'un doit dire, moi, je suis extraordinaire. Moi, je ne mets pas ma bouche sur les gens n'importe comment. Moi, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Pour parler de Nathan. Ce que vous devez, je veux vous parler rapidement de Nathan. Comment identifier un Nathan? Premièrement, un Nathan dans ta vie, ça doit être quelqu'un qui t'aime. Ça doit être quelqu'un qui t'aime. Ça doit être quelqu'un qui t'aime. Ça veut dire que son amour pour toi ne souffre d'aucune contestation. Écoutez, vous allez relire l'histoire, mais quand Nathan vient voir David et que Nathan le confronte, oh, Dieu va m'aider à vous dire ça. L'amour, c'est être capable de voir quelqu'un avec ses défauts, ses trous, mais de continuer à l'aimer en dépit d'eux. Ça veut dire que l'amour n'aime pas parce que, l'amour aime malgré. Et la vérité, c'est qu'on a beaucoup de gens dans notre société qui aiment parce que. Parce que tu chantes bien, parce que tu t'habilles bien, parce que tu parais être bien, mais qui ne sont pas capables de t'aimer malgré ta colère, malgré tes impulsions, malgré ta mauvaise bouche, malgré tes défauts, malgré tes faiblesses. Quelqu'un a dit, l'ami aime en tout temps. Nathan doit t'aimer. Je l'ai dit tantôt, mais je veux l'introduire là. Nathan doit être proche de toi. Nathan, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Nathan est proche de toi parce que c'est toi qui l'as rapproché. C'est notre évêque qui avait prêché sur l'histoire de Noé et ses fils, et un en particulier, et qui racontait comment Noé, après avoir survécu au déluge, fait son offrande à Dieu, bâtit une alliance avec Dieu. Dieu tisse une alliance avec Noé. Et puis Noé change de fonction, de profession, se réinvente. Et puis, du fruit de son travail, Noé va dans sa tente avec son vin. Il boit. Goulou, 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 goulou. Il boit dans sa tente. L'image, ce serait, tu as travaillé toute la journée. Tu as vécu une situation difficile. Et puis quand tu rentres chez toi, tu rentres dans ta chambre, tu pars avec Jack Daniels ou avec le vin. Bon, c'est quoi le... Bon, non, ne dites pas. Le vin. Et puis, dans ta chambre, tu bois. Goulou, goulou, goulou. Et pendant que tu bois, tu es tellement en joie qu'à un moment, tu balances une chaussure, tu balances l'autre chaussure, tu enlèves le t-shirt, tu enlèves le tricot, tu enlèves le reste. Et puis, tu commences à danser nu dans ta propre chambre. Et puis, l'un des fils de Noé rentre dans la tente de Noé. Écoutez bien, il rentre dans la tente de Noé. Ça veut dire que Noé n'est pas allé boire et danser nu dans la tente de son fils. C'est dans sa propre tente. Donc le fils rentre dans la tente de Noé. Et quand il rentre, il voit papa. De postérieur en l'air. Dans la joie, mais totalement bourré. Quand le fils voit ça, il rit. Il se tourne. Il va dire à ses frères, les gars, devinez ce que j'ai vu. Les gars disent, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu papa, le postérieur dehors, totalement peinté, bourré, ivre, wasted, gaspillé. Ses frères entendent ça. La Bible dit qu'ils vont rentrer en reculant dans la tente de leur père pour ne pas voir sa nudité et ils vont le couvrir. Plusieurs choses que ça m'indique. L'évêque en avait parlé. Mais déjà, c'est que pour voir la nudité de quelqu'un, il faut être proche. Soit tu es proche, écoutez-moi bien, soit tu es un voyeur. Donc soit tu utilises des jumelles pour regarder ce qui se passe de l'autre côté dans la maison d'autrui. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que si tu acceptes d'être proche de quelqu'un, c'est que tu t'exposes à ce que la personne voit ta nudité. Le problème que j'ai avec certaines personnes dans notre génération, c'est qu'ils veulent des relations profondes, mais sans intimité. Et ce n'est pas possible d'avoir des connexions véritables sans proximité. Quand tu veux vraiment être proche de quelqu'un, c'est que tu cours le risque que la personne voit tes défauts. Certains d'entre vous, vous n'avez que des relations en surface. Parce que vous avez peur qu'on voit vos faiblesses. Écoute, Nathan, pour te confronter, doit avoir accès à toi. Oui, il doit être assez près pour t'aimer, mais il doit être aussi assez près pour voir tes fautes. Ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est qu'il y a une différence entre le fait d'être proche et de constater les manquements de quelqu'un et le fait d'être voyeur et de vivre dans la suspicion. Je sais que ce n'est pas ici, Dieu m'aide, mais il y a des gens, ils soupçonnent le mal. Ça veut dire que si je vois mon frère parler avec une autre sœur, c'est moi qui vais appeler sa femme. Mako. Ah, ce que je vois là, c'est grave. Qu'est-ce que tu vois? Ton mari, il fait quoi? Il parle avec une autre femme, mais il ne parle pas bien. Quand il parle là, il sourit. Ah, mais mon mari aime sourire. Non, ce n'est pas le sourire là dont je te parle, Mako. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis-lui, ne sois pas ce genre de personne. Un Nathan, c'est quelqu'un qui pose les questions difficiles. Et je vous assure, il n'y a personne qui véritablement aime qu'on lui pose les questions difficiles. Personne n'aime qu'on mette le doigt sur les mauvais traits de son caractère, sur ses manquements et ses faiblesses. Maintenant, laissez-moi vous parler dans le contexte de ce texte. Je vais conclure sous peu. Je terminerai dans le temps. Si Nathan doit te confronter, il doit être proche. Si Nathan doit être proche, il doit avoir accès à toi. Si Nathan doit avoir accès à toi, il doit t'aimer. Mais Nathan doit te poser les questions difficiles un peu comme celle que Dieu pose à Adam quand Adam a péché. Vous savez, j'ai toujours été dérangé par la question que Dieu pose à Adam. Parce que Dieu sait tout. Mais Dieu dit, Adam, où es-tu? Dieu sait où est Adam. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'Adam réalise où il est. Et c'est exactement ce que Nathan fait avec David. Nathan ne vient pas dire à David, oh, Dieu m'a parlé la nuit. tu as pris la femme de l'autre et tu l'as tuée. Non, Nathan raconte une histoire. Le but de l'histoire, c'est que David ouvre les yeux sur son propre péché. Et c'est ça qui, moi, me paraît crucial. Nathan ne vient pas juste pour te dire tu as péché. Nathan vient t'aider à réaliser que toi-même, tu as péché. Donc c'est toi-même qui dis mince. Parce que quand vous regardez à la vie de David, la Bible dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Et vous pouvez tout dire au sujet de David, mais quand Dieu regarde David, il dit, oh, ça c'est mon boy. Ça c'est mon gars, ça c'est mon type. Sauf que David a des faiblesses. Et quand Dieu veut parler à David, écoutez-moi bien, David n'entend plus la voix de Dieu par rapport à ça. Donc Dieu va parler à Nathan. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui Dieu est capable de parler quand toi tu ne l'entends plus? Et que cette personne vienne pour te dire, ah, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai perçu, et tu ne la rejettes pas en disant, occupe-toi de tes affaires, c'est ma vie, ça ne te regarde pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu es capable d'ouvrir les bras, même quand il vient avec des... paroles dérangeantes? Ou est-ce que tous les gens qui doivent être proches de toi doivent te caresser dans le sens du poil? Ça m'a béni, ça m'a excessivement béni, parce que c'est pas David qui a dit à Nathan son péché. Nathan n'était pas là. Mais ça m'a béni et ça m'a dérangé, parce que ça veut dire que Dieu est capable de parler à quelqu'un de ta vie. Privé. J'insiste, privé. Mais si Dieu parle à quelqu'un de ta vie privée, c'est peut-être parce qu'il t'a déjà parlé mais que tu n'entends plus. Et quand Dieu le fait, écoutez-moi bien s'il vous plaît, Dieu ne parle pas de nos vies privées. Je dis Dieu ne fait pas ça. Dieu ne parle pas de nos vies privées à nos ennemis. Ça c'est le diable. Dieu ne parle pas de nos vies privées à des gens qui ne nous aiment pas. Ça, c'est leur propre chair et leur propre suspicion. Quand Dieu parle de ma vie à quelqu'un, la personne m'aime comme pas possible. Parce que Dieu ne peut pas partager des informations privées me concernant avec une sorcière ou un sorcier. Parce qu'il y a des gens, s'ils savaient ce que Dieu sait sur toi, Facebook, Instagram, Twitter, l'Union, Gabon 24, serait trop peu. CNN, France 24, RFI. Et l'une des choses qui démarque Nathan des autres individus qui ont envie simplement d'avoir des informations sur ta vie, c'est que quand Dieu parle à Nathan, Nathan ne va pas voir quelqu'un d'autre que David. Quand Dieu parle à Nathan, Nathan ne va pas sur le sommet de la montagne. Vous savez qu'il y a une différence majeure entre Jean-Baptiste et Nathan. Vous avez un prophète qui est près du roi et qui sait comment parler au roi pour l'emmener à se repentir. Et vous avez un autre prophète qui parle au roi et dont la tête tombe. Des prophètes à qui Dieu parle. Mais l'un d'eux avait la proximité avec David. L'autre était dans le désert, mais il a voulu aller parler au palais. Ce qui me bénit, c'est qu'il y a des gens, même quand vous savez, restez dans le désert. Pardon. N'allez pas au palais. La première relation dont j'ai voulu parler ce matin, et je suis sur le point de conclure, c'est l'une des relations les plus difficiles à avoir, l'une des connexions les plus difficiles à faire. C'est pour ça que j'ai demandé, accepterais-tu d'être connecté? Accepteras-tu d'être connecté? Parce que c'est le genre de relation qui est indispensable si on veut aller plus loin, mais qui est inconfortable. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu donnes le droit, à qui tu donnes la largesse, à qui tu permets de te dire, écoute, si je déconne, dis-le-moi. Si je m'égare, parle-moi. Si je me trompe, ne me laisse pas m'égarer. Cette relation pour moi est vitale. Pourquoi? Parce que tout le monde ici est faillible. Parce que chacun d'entre nous, on est capable de prendre une direction en pensant que c'est la bonne et être totalement dans l'erreur. Moi, j'ai peur. La chose qui me fait le plus, l'une des choses qui me fait le plus peur, c'est de me perdre. Parce que quand on se perd, on ne sait pas. Et c'est pour ça que les décisions importantes de ma vie, je ne les prends pas seul. Dans le contexte de ce texte, Nathan est le prophète du roi. Mais Nathan, pour toi, peut ne pas être un homme de Dieu, peut ne pas être une femme de Dieu. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton ami. Mais Nathan doit t'aimer. Pour moi, Nathan, c'est mon père. Quelqu'un qui est capable de me faire asseoir. Quelqu'un que je vais écouter, même quand je ne veux pas écouter. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie, même quand tu ne veux pas faire quelque chose, qui est capable de t'aider à ouvrir les yeux? Et tu te remets en cause. Notre société est pleine de gens qui n'écoutent personne. La jeunesse qu'on a dans notre nation, les jeunes que je vois travailler, les jeunes que je vois vivre, vivent comme des électrons libres. Mais si un roi, au sommet de son royaume, a eu besoin de quelqu'un comme Nathan, qui es-tu toi? Pour penser que tout seul tu peux, que Dieu et toi c'est suffisant. Je veux dire à quelqu'un ce matin, reste connecté. Ne fuis pas ton Nathan. Je sais que ça ne vous arrive jamais, mais il y a des gens dans la maison, vous savez que parfois, la personne qui va vous dire la vérité sur vous, c'est cette personne que vous fuyez le plus. Parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas entendre. Et je vous ai dit, il y a des gens ici. Quelqu'un vient me voir. Quelqu'un vient me voir et tout. La personne veut me dire comment vivre ma vie, comment faire l'œuvre de Dieu, le pasteur et tout. Personne ne veut me parler. Je l'ai regardé parce que je suis poli, c'est vraiment à cause de l'éducation. Je l'ai écouté. J'ai dit merci. Convaincu qu'elle a sauvé ma vie. Elle m'a énervé. La seule chose qu'elle a fait, c'est me foutre en boule. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit bon, d'abord, elle est dans la chair, mais ensuite, même si Dieu voulait me parler, il sait très bien que... Vous savez, il y a des gens, si Dieu veut me parler, il ne peut pas t'utiliser. Authentique. Parce que lui-même, il sait qu'une fois qu'il m'a parlé par toi, le message a perdu de sa valeur. Parce que c'est ta bouche qui l'a prononcé. Et vous savez qu'il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que même si ils veulent vous faire une remarque, mais c'est quand c'est dans sa bouche, ça perd... Tu te dis non, mais tu es obligé d'aller demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Parce que... Mais il y en a d'autres, vous savez très bien que la personne vous aime. Mais vous la fuyez, pas parce qu'elle vous énerve véritablement, mais parce que ça vous énerve qu'elle ait raison. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis, ne fuis pas ton Nathan. Je conclue ce matin en vous disant ceci. C'est une citation, c'est une phrase qui a été prise sur un t-shirt et je l'ai aimée. Du moins, celui qui l'a donné l'a pris sur un t-shirt et je l'ai prise aussi. Il dit, la phrase dit, tomber c'est humain, se relever c'est divin. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au texte, malheur à l'homme seul, car s'il tombe, qui le relève? Ça veut dire que quand Dieu veut t'aider à te relever, te connecte à quelqu'un.
C'était À la découverte de soi, le podcast d'enseignement de l'évêque Michel Ambourouet. Nous vous encourageons à utiliser chacune des ressources que vous avez trouvées dans cet épisode. Rendez-vous sur michelambourouet.com pour découvrir d'autres prédications et des enseignements de sagesse. À la découverte de soi, un podcast MA Organisation.